Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat d'été consacré ce soir aux honneurs et à la République. À l'ordre du jour ce soir, un État contesté peut-il rendre un hommage national? Depuis l'annonce en plein cœur du confinement d'un hommage national rendu le 14 juillet au personnel soignant et sa réception, pour le moins contrastée par les soignants eux-mêmes, la forme même de cet hommage a évolué. Car ce type de manifestation peut être l'occasion de protestations ou de marques de défiance vis-à-vis de celles et ceux qui rendent l'hommage, c'est-à-dire les gouvernements. Il existe bien des exemples célèbres, individuels et médiatisés de refus de décoration, et nous en parlerons sûrement pendant cette émission, mais qu'en est-il des réticences face à un hommage rendu collectivement par l'État à des soignants qui ont œuvré dans une période de crise pour sauver des vies? C'est ce que nous allons voir avec nos trois invités, avec vous Geneviève Darrieussecq, bonsoir. Vous êtes ministre délégué auprès de la ministre des Armées en charge de la mémoire et des anciens combattants. Vous êtes au cœur justement de ces questions de commémoration. Avec nous également Olivier Hill, il est spécialiste de la question des distinctions républicaines. Vous êtes professeur de sociologie historique à Sciences Po Grenoble. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous également au téléphone, eh bien Bruno Cotrez, vous êtes chercheur au CNRS CIVIPOF. Vous êtes enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions en particulier de confiance des citoyens vis-à-vis de leur État. Bonsoir Bruno Cotrez.
Bonsoir.
Une médaille de l'engagement face aux épidémies sera réactivée afin de récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19. Cette médaille, qui avait été créée à l'occasion de l'épidémie de choléra qui avait frappé notre pays en 1884, pourra récompenser ceux qui se sont particulièrement dévoués pendant les périodes de maladies épidémiques. Elle pourra être décernée à titre individuel ou collectif et fera l'objet prochainement d'un décret qui la réactualisera. Le président de la République souhaite enfin que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19.
Voilà donc un moment important. Nous étions à la mi-mai. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, annonçait justement à la fois cette médaille réactivée, cette médaille des épidémies, et également cette fête nationale du 14 juillet qui va être l'occasion d'un hommage rendu aux soignants. Geneviève Darrieussecq, ce type d'hommage est fréquent dans la République ou est-ce que c'est assez rare? Est-ce que c'est la crise justement très exceptionnelle que nous venons de vivre qui justifie ce type d'hommage national?
Bien, les hommages nationaux, c'est vrai, sont souvent rendus traditionnellement, classiquement, par exemple à des militaires morts pour la France. Donc les choses sont malheureusement trop fréquentes dans notre ministère. Parce que nous avons déploré, ne serait-ce que dans la dernière année, de très nombreuses disparitions de militaires morts pour la France. Mais je crois que les hommages nationaux, dans des situations exceptionnelles, comme celle que nous venons de vivre, ont toute leur place, parce qu'un hommage national, c'est tout simplement dire la reconnaissance de la nation, dire merci, dire la gratitude de la nation pour ceux qui se sont battus contre cet ennemi microscopique et invisible, mais qui a fait des dégâts, qui se sont mobilisés, qui se sont engagés. Et moi, je crois qu'il faut savoir dire merci, il faut savoir reconnaître. Cela fait partie aussi de la construction d'une nation et puis de la construction individuelle de chaque personne qui reçoit ses remerciements et cet hommage.
Est-ce que vous avez été surprise vous-même qui vous êtes engagée, puisque vous êtes médecin de formation justement pendant la crise, à retourner à votre premier métier, Madame la Ministre, est-ce que vous avez été surprise de la réaction des soignants qui, effectivement, après un an de lutte pour certaines d'entre elles ou certains d'entre eux, ont, disons, été un peu sceptiques, voire un peu plus, vis-à-vis de, à la fois, cet hommage national qui sera rendu ce 14 juillet, mais également de cette médaille des épidémies.
Je ne sais pas si les personnes qui se sont exprimées représentaient l'ensemble des soignants ou des professions qui ont été impliquées dans cette lutte. Moi, ce que je vois et ce que je sais, c'est que, par exemple, dans mon ministère et dans mes fonctions, je reçois très très régulièrement des demandes de personnes qui souhaitent être médaillées, qui souhaitent que l'on reconnaisse, c'est la reconnaissance de la nation, que l'on reconnaisse leur mérite. Et pour tout vous dire, ce sont souvent des gens simples, des gens voilà qui mènent une vie très très classique, qui n'ont pas voilà fait d'éclat particulier par ailleurs, mais qui en ont fait à un moment de leur vie et qui souhaitent qu'on leur rende hommage et qu'on les reconnaisse. Moi, je crois que c'est très humain tout cela.
Sur ce point, Olivier Hill, vous qui avez travaillé sur le mérite et la République, un grand livre publié maintenant il y a une douzaine d'années chez Gallimard, Essai sur la société des émules, vous notez tout de même que, en tant qu'historien, les refus de décoration sont très très peu nombreux. Vous dites en moyenne, pour la Légion d'honneur, 5 sur 1500 remises par an, quelque chose comme cela ?
Oui, c'est ça. Le chiffre que l'on peut estimer est bien celui-ci. Alors, il ne s'agit cependant que des refus au moment où la promulgation va rendre en quelque sorte officielle l'attribution de la décoration. Ce chiffre est plus important si l'on examine, par exemple, les dossiers qui sont écartés un peu avant, lors de la procédure d'examen par la chancellerie de la Légion d'honneur. Et là, ça peut monter à 15% du total. Cela dit, si ce sont des petits chiffres, ils sont constants à travers l'histoire. Et depuis le XIXe siècle, il y a dans ce pays une sorte de sismographie des refus qui est intéressant de suivre, parce qu'après tout, il donne la clé de la considération qui entoure la remise de ces signes distinctifs.
Alors par exemple, un grand peintre, Gustave Courbet, refusait la Légion d'honneur.
Paris de 23 juin 1870, Monsieur le Ministre. C'est chez mon ami Jules Dupré à l'Isle-Adam que j'ai appris l'insertion au journal officiel d'un décret qui me nomme chevalier de la Légion d'honneur. Ce décret, que mes opinions bien connues sur les récompenses artistiques et sur les titres nobiliaires auraient dû m'épargner, a été rendu sans mon consentement et c'est vous, monsieur le ministre, qui avez cru devoir en prendre l'initiative. Ne craignez pas que je méconnaisse les sentiments qui vous ont guidé. Arrivant au ministère des Beaux-Arts après une administration funeste qui semblait s'être donné la tâche de tuer l'art dans notre pays, et qui serait parvenu par corruption ou par violence, s'il ne s'était trouvé ça et là quelques hommes de cœur pour lui faire échec, vous avez tenu à signaler votre avènement par une mesure qui fit contraste avec la manière de votre prédécesseur. Ces procédés vous honorent, monsieur le ministre, mais permettez-moi de vous dire qu'ils ne pouvaient rien changer, ni à mon attitude, ni à mes déterminations. Mes opinions de citoyen s'opposent à ce que j'accepte une distinction qui relève essentiellement de l'ordre monarchique. Cette décoration de la Légion étrangère que vous avez stipulée en mon absence et pour moi, mes principes la repoussent. En aucun temps, en aucun cas, pour aucune raison, je ne l'eusse acceptée. Bien moins le ferais-je aujourd'hui que les trahisons se multiplient de toutes parts et que la conscience humaine s'attriste de tant de palinodies intéressées. L'honneur n'est ni dans un titre, ni dans un ruban. Il est dans les actes et dans le mobile des actes.
Alors, c'est Gustave Courbet avant la Commune, en l'occurrence, mais qui récuse une décoration qui vient de l'ordre monarchique, dit-il. Enfin, c'est l'ordre impérial, plutôt, puisqu'il s'agit de Napoléon, pour cette Légion d'honneur. On voit là quelques-unes des raisons régulières, pourrait-on dire, de refus de décoration, Olivier Hill, dans notre République.
Oui, c'est un refus qui s'ancre dans la Révolution française. On connaît la célèbre journée du 17 juin 1790, avec l'abolition des signes de féodalité. Et puis, ensuite, la République a colporté cette tension en 1848, en 1870, sous la houlette, en l'occurrence, de Jules Ferry, qui fut très hostile à la Légion d'honneur. Cette tension est au fond celle qui anime beaucoup de citoyens, l'idée selon laquelle le signe accolé au mérite fait problème et doit donc être débattu, parce qu'après tout, il ne va pas de soi que ce soit l'État qui décerne ces signes de mérite.
Geneviève Darrieussecq, Madame la Ministre, quand vous avez justement ces gens qui viennent vous demander ou pour eux, ou pour d'autres d'ailleurs, une décoration. Est-ce que vous recevez aussi des mises en garde en disant « je n'ai pas envie de la recevoir, je ne veux pas » ou est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que cette décoration républicaine, que ça soit pour la Légion d'honneur, pour le mérite ou d'autres décorations, choque tant cela nos concitoyens ?
Écoutez, dans le domaine qui est le mien, les décorations
c'est le domaine militaire.
Ne sont, sont rarement refusées.
Bien sûr.
Titre personnel, dans les trois ans, que je viens de vivre, il n'y a jamais eu un refus particulier. Des dossiers arrivent, ils sont instruits, il y a des règles très strictes qui sont les mêmes pour tout le monde. Voilà, ensuite les dossiers sont transmis à la grande chancellerie qui finit de les instruire et qui décide. Mais je n'ai jamais eu de personnalité ou de personne qui ait refusé dans notre ministère, bien sûr, ces distinctions. Mais le monde combattant est particulier à cet égard, c'est-à-dire que le monde combattant est très attaché à ses valeurs de reconnaissance. Qui montre l'engagement, qui témoigne de l'honneur de la nation, que l'honneur de la nation leur fait, et tout cela est dans la fibre du monde combattant. Donc, il est normal qu'il n'y ait pas ces refus, qui peuvent être des refus, comme on vient de l'entendre, exprimés de façon absolument magnifique, dans un langage très
très littéraire. Bien.
Très littéraire et des moi je comprends que des opposants politiques ou des opposants à des situations refusent, tout le monde peut refuser ce type de symbole, ce type de distinction, mais dans notre domaine ce n'est pas le cas.
Bruno Cotresse, vous qui regardez de près en tant que spécialiste de sciences politiques la question de la confiance des Français, on sait qu'il y a un baromètre de la confiance qui est régulièrement organisé par le CBIPOF. On voit que cette confiance des citoyens vis-à-vis de leur gouvernement successif, et pas simplement de celui qui nous gouverne aujourd'hui, mais et disons en train ou régulièrement en train de s'effriter, est-ce que cela rentre en compte, en ligne de compte, dès qu'on parle justement de cette question des honneurs que la République peut accorder à certains de ses concitoyens?
Oui, absolument, absolument. Si on pense d'ailleurs au cas de figure qui nous occupe, qui a vous présenté au début de notre émission, c'est-à-dire l'idée de récompenser par une médaille, une sorte de médaille du mérite, les personnels soignants qui ont été aux premières lignes du combat contre le virus, ça illustre très très bien quelque chose qu'on connaît assez bien dans les mécanismes qui génèrent de la confiance ou au contraire de la défiance. On peut voir une sorte de relation presque dynamique entre les performances, par exemple de l'action publique, et les demandes ou les exigences des citoyens.
On pourrait dire que vous
la défiance, on pourrait dire que la défiance, elle va augmenter sous l'effet d'une perte d'efficacité des politiques publiques, par exemple, ou de l'État qui serait incapable de régler ou de résoudre des grands problèmes. Et en parallèle, une très forte augmentation des demandes. Et la tension entre les deux va générer très souvent de la défiance, comme s'il y avait une sorte de tension insoutenable entre un diagnostic que l'on porte sur une situation, nous les citoyens, qui est la situation est grave, nos demandes augmentent vis-à-vis de la puissance publique et de l'État, et lui se montrerait dans la difficulté de répondre à cette demande. Et cette tension va créer à un moment donné une rupture de faisceau entre les citoyens et le gouvernement, introduisant la relation de défiance, et à ce moment-là, certains percevant la récompense du mérite individuel comme une sorte de, on va dire, de compensation un peu dérisoire par rapport au diagnostic que l'on porte collectivement, qui est le problème est immense et l'État est déficient dans sa capacité à le régler.
Madame la ministre, la politique, c'est l'art de l'adaptation. On le sait, les situations changent, évoluent. Quand vous avez donc lancé, enfin, quand ce gouvernement, le précédent gouvernement a lancé donc justement cette idée de médaille des épidémies, et puis cet hommage national du 14 juillet, on a vu la réaction d'une partie, en particulier des syndicalistes dans les hôpitaux, etc., qui ont refusé, qui ont dit on ne veut pas de médaille en chocolat, etc. Comment on réajuste la position, justement, comment on organise, parce que demain, il y aura cet hommage national qui sera rendu aux soignants, comment on l'organise, justement, en prenant en compte ce type de réaction et en faisant en sorte de faire tout de même cet hommage national qui est nécessaire et attendu par une certaine partie de l'opinion publique, mais en prenant en compte, justement, aussi ces réticences premières.
Les choses ne sont pas simples. Et votre question est effectivement complexe. Bien sûr qu'il y avait de la défiance de tous les personnels hospitaliers en particulier, depuis des mois et des mois, et une défiance d'ailleurs depuis des années, avec une évolution du système hospitalier méritait de vrais ajustements. Je ne sais pas si la confiance reviendra. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a eu, depuis la fin de cette crise, bien sûr, des actions, le Ségur de la santé, qui est en train de se conclure, et qui n'est pas simplement une reconnaissance par la rémunération, qui est aussi une reconnaissance par...
Il y a des données sur la carrière, etc.
Des données, voilà, puis surtout de l'emploi nouveau, et puis qui va amener aussi à des restructurations de notre système de santé auxquelles vont devoir participer de façon active tous les professionnels de santé. Moi, je crois que tout cela doit partir d'un principe simple, c'est construire avec la base. J'ai toujours été favorable à ce type de méthode et je crois que ce type de méthode sera progressivement mise en œuvre.
Faire la base, c'est aussi d'ailleurs un terme militaire, il faut le rappeler. Vous êtes donc dans un ministère des armées où la question de faire la base, quand on fait les armées, c'est très important puisque c'est sur cette base qu'on va construire justement la structure, pourrait-on dire, de l'action.
Dans les armées, nous avons deux choses. Il y a effectivement une construction avec la base et il y a aussi quand même un commandement et une autorité qui s'applique par le haut.
Bien sûr, par le haut.
Donc nous avons deux systèmes qui en définitive sont très efficients, très efficients à l'arrivée. Et comment redonner confiance et comment faire en sorte que les cérémonies du 14 juillet, qui sont quand même, nous avons vécu une année extraordinaire, alors extraordinaire dans le sens où elle n'était pas ordinaire, singulière, particulière, unique, des moments très difficiles, des régions sous une tension extrême, d'autres régions beaucoup moins en tension qui sont venues aider celles qui étaient dans une tension extrême. Et je crois que tout cela mérite quand même, à l'occasion de la fête du 14 juillet, que nous disions les choses, que nous, alors nous ne commémorons pas, mais nous remercions, nous honorons les Français. On remercie en applaudissant tous les soirs sur les balcons. La nation peut remercier dans son ensemble pour le 14 juillet. Voilà, il faut que les choses soient prises avec simplicité. Est-ce qu'il faut en faire un moment de contestation, un jour de contestation? Je crois au contraire qu'il serait bon d'en faire un jour d'apaisement, un jour d'union nationale et peut-être un jour où l'on se dit que notre nation... qui, comme beaucoup de nations dans le monde, peut paraître en difficulté vis-à-vis d'un petit virus, peut paraître aussi en difficulté socio-économique à venir, a besoin de cette union nationale pour rebondir et a besoin justement que les Français aient confiance dans leur nation, mais aient confiance en eux-mêmes aussi, pour pouvoir rebondir.
Olivier Hill et puis Bruno Cotrès. Olivier Hill.
Oui, c'est un débat ancien. La question au fond de la part de la reconnaissance, de l'exemplarité et de la récompense, hein, au cœur de la décoration. On peut signaler combien le phénomène est ancien, celui du refus par des professions ou activités. Alors on a évoqué les syndicalistes, la CFDT, la FEN, ont longtemps été réticents. La CGT n'a connu un chevalier de la Légion d'honneur qu'en 1982 avec Georges Ségui, mais on peut parler des journalistes, on peut parler des magistrats, on peut parler des députés. Il y a un certain nombre d'activités qui, en quelque sorte, ont tenu à distance les décorations d'État pour précisément faire valoir l'idée d'une autonomie et l'idée d'une liberté. Ce qui montre bien que cette tension dont je parlais tout à l'heure est très présente. Alors, évidemment, il faut prendre la part des choses. Le péril devant le combat ou sur les champs de bataille, ça pas la même chose que la distinction civile, celle que, par exemple, refusent Bernard Clavel, Michel Foucault ou bien Jean-Luc Godard. Ce sont des choses, évidemment, très différentes. Mais c'est un phénomène qui est, on le voit, plein de paradoxes. Et c'est pour ça aussi qu'on s'y attache.
C'est ce qui est très intéressant, Bruno Cotrès, et vous regardez donc en particulier au CEIPOF toutes ces questions d'évolution de l'opinion, c'est aussi l'évolution de la notion d'héroïsation. Geneviève Darrieussecq, Madame la Ministre, évoquait tout à l'heure la question des héros morts au combat, par exemple. Aujourd'hui, ce sont des victimes, parfois, qui sont héroïsées. Ce sont des gens qui ne sont pas des gens qui ont pris les armes, mais qui, parfois, ont subi, justement, des attentats terroristes. Ou, effectivement, dans le cadre des soignants, ce sont des gens qui sont dans un combat qui n'est pas un combat militaire. Tout cela change aussi, peut-être, la façon dont on peut rendre hommage à ces héros du quotidien, comme on dit aujourd'hui, Bruno Cotterêss.
Oui, il est certain que dans la séquence que nous venons de vivre, on a vu que la communication de l'exécutif avait été une communication voulant revaloriser, alors pas seulement au sens des conditions de travail et des salaires, mais aussi de revaloriser l'image héroïque des personnels soignants. Le chef d'État a parlé à plusieurs reprises d'un état en guerre pendant la crise du coronavirus, a parlé de nos héros, en mettant « nos » juste avant « héros », c'est-à-dire pour en plus accentuer la dimension d'unité nationale et de participation de ce héros du quotidien au ciment de l'unité nationale. Mais on voit qu'effectivement, c'est un autre registre que celui de la récompense des héros militaires ou des héros de guerre, bien évidemment. La relation de confiance dans tout ça, c'est une chose qui est assez importante pour essayer de comprendre le côté aussi ambigu de tout ce dont on est en train de parler. On a parlé des refus de médailles, de ceux qui refusent les récompenses, mais il y a quelque chose d'un peu plus ambigu dans tout ça. Au fond, même celui qui dirait « la médaille ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse moi », c'est qu'on traite le fond du problème, pourrait, si on lui remettait cette récompense, en ressentir quand même beaucoup d'honneur. La fierté d'être récompensé, l'onction...
D'être distingué.
D'être distingué, mais bien sûr, l'onction de la reconnaissance par la nation. Et là, ça nous amène à un mécanisme tout à fait fondamental de la construction de la relation de confiance entre les citoyens et le système démocratique, qui est l'idée de réciprocité. C'est-à-dire la question de la réciprocité est fondamentale dans la relation de confiance. Si j'ai confiance, c'est que je sais qu'en échange... on va me réinvestir d'une relation de confiance en retour, que ma confiance sera payée de retour. Donc la question de la réciprocité est fondamentale. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que la récompense à côté d'une politique publique, car évidemment, si la politique publique, c'est la récompense, ça ne va pas générer ce sens de la réciprocité. Mais si c'est à côté de la politique publique, s'il y a un engagement à côté vraiment en termes de revalorisation à ce moment-là au sens des conditions de travail, des conditions de salaire, etc., ça peut un peu participer à la restauration de la relation de confiance, mais ça n'y suffira pas en soi-même. Il faudra effectivement, à mon avis, beaucoup un investissement important, pas seulement un investissement financier, mais un investissement aussi auprès de ces professions, auprès de l'ensemble des professions d'ailleurs qui ont été en première ligne, en deuxième ligne, etc. Ben oui, effectivement, c'est cette relation de réciprocité qui sera le cœur de la bataille pour ne pas donner le sentiment qu'on a traité à court terme et puis on est passé à autre chose ensuite.
Geneviève Darrieussecq.
Je suis d'accord. Moi, je crois que le moteur de chaque individu, je ne parle pas d'une société, je parle d'un individu, c'est de pouvoir être reconnu pour ce qu'il a fait. Je crois que quand on sait dire à un enfant qui est à l'école que bien ce qu'il a fait était bien fait, et lui dire que et l'encourager, son développement sera tout à fait différent du développement d'un enfant à qui tous les efforts ne seront jamais reconnus. Et donc c'est pareil dans notre société. Il faut que nous soyons reconnaissants, que nous sachions dire merci, que nous sachions aussi reconnaître les efforts des individus et les efforts collectifs, tout simplement parce que c'est un moteur. On parlait de distinction nationale. Regardez tous les bénévoles dans les associations, qui sont des gens extraordinaires et dont on a un besoin crucial dans ce pays. Franchement, il y a des médailles pour le bénévolat, il y a des reconnaissances. Quand un bénévole reçoit une médaille, Eh bien, il est très heureux parce que il fait ça, en définitive, il n'y a pas de gratification financière. Il fait ça pour donner de sa personne dans un rôle qui est souvent essentiel dans la société. Et je crois que lui dire notre reconnaissance et le remercier par une distinction, eh bien, ça lui donne l'élan pour continuer également.
Mais on sait bien que reconnaissance symbolique, reconnaissance financière ne marche pas forcément de pair et que ça fait toujours partie de l'idée. C'était ce que disaient les soignants quand ils parlaient de m'aider en chocolat. C'est, il faut qu'il y ait autre chose, comme le disait tout à l'heure Bruno Cotresse, que la reconnaissance par le symbole d'une certaine façon.
Nous sommes entièrement d'accord.
Olivier Hill.
Oui, c'est d'autant plus vrai que l'État lui-même fait un travail de réflexion sur ses propres distributions d'honneurs. Et depuis 25 ans, les chefs de l'État proposent des pistes nouvelles pour en élargir notamment la base. Mm-hmm. On se souvient qu'en 1996, Jacques Chirac avait fait une lettre ouverte pour prier la Grande Chancellerie d'ouvrir un peu plus ses
de
la Légion d'honneur aux catégories populaires. Que Nicolas Sarkozy, 12 ans plus tard, avait lui aussi emboîter le pas en demandant à ce qu'il y ait une plus grande parité entre hommes et femmes dans les cohortes. Et c'est là qu'une politique de reconnaissance, je reprends le terme, a été lancée et que le chef de l'État, Emmanuel Macron, y est revenu en 2018 pour, lui aussi, cette fois, demander plus de rigueur dans la manière dont sont attribués ces signes et dont ces honneurs sont entourés.
Vous écoutez le temps du débat. Nous nous posons la question des rapports entre les honneurs et la République.
Vous pensez qu'on a vraiment besoin d'une médaille, la fameuse médaille qui a été annoncée?
Si vous n'en voulez pas, vous ne la prenez pas.
Ah oui, non, mais c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est surtout pour le personnel.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Le temps du débat consacré à la question du rapport des honneurs à la République et de la République aux honneurs avec Olivier Hill, spécialiste de questions de distinction républicaine, auteur de du Mérite et la République chez Gallimard, professeur de sociologie historique à Sciences Po Grenoble, Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et Vipof et enseignant à Sciences Po qui travaille en particulier sur la question de la confiance des citoyens envers leur gouvernement et le pouvoir, et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées en charge de la mémoire et des anciens combattants. Si on élargit justement ce que vient de dire Olivier Hill, c'est-à-dire cette idée que effectivement les dirigeants et les présidents de la République cherchent à rendre ces honneurs, quels qu'ils soient, plus proches de la réalité sociale de notre pays. Je crois que vous travaillez justement en tant que ministre en charge de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, à faire en sorte que justement toutes ces questions qui sont liées, par exemple, à l'engagement des tirailleurs sénégalais ou de tout un tas de populations qui étaient des colonisées dans les armées de la République, eh bien, soient plus présentes, soient plus honorées, justement, par cette même République, alors même que ces colonies sont devenues depuis très longtemps indépendantes.
Oui, mais tout cela fait partie de notre histoire. Et la mémoire est là pour rappeler l'histoire, mais surtout la mettre dans un contexte un petit peu différent. Il faut se souvenir et... La mémoire s'attache plus peut-être à l'humain et aux situations humaines. Regardez ces tirailleurs sénégalais qui, par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont aussi combattu lors de la Première Guerre mondiale, mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, formaient le plus gros des troupes qui ont participé au débarquement de Provence et donc à la libération de la France. Je crois qu'ils font partie de notre histoire nationale, complètement.
Il y a eu un film indigène qui racontait cette histoire-là il y a déjà très longtemps.
Absolument. Les tirailleurs sénégalais qui ont participé au combat de 40 il y a 80 ans et qui certains ont subi des massacres de type raciste de la part de l'armée
On parlait du Tata de Chasselet en particulier.
Tout cela, c'est notre histoire, ça doit être dans notre mémoire collective et nous devons connaître et honorer aussi ces soldats qui se sont engagés pour la France. Je me suis rendue le 31 décembre dernier au Tchad et j'ai rencontré des anciens combattants tchadiens. Des hommes magnifiques, très âgés, qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont participé aussi à la guerre d'Indochine pour certains, très âgés.
Quelquefois à la guerre d'Algérie pour certains aussi.
Oui.
Ce qui n'était pas très simple pour eux.
Ce qui était très complexe. Très âgés, mais ils avaient dans leurs yeux brillé en parlant de la France, de ce qu'ils avaient fait, du drapeau français. Ils étaient tchadiens pourtant, mais tout cela était pour eux, ils étaient honorés d'avoir servi pour la France. Bon, ils avaient leur plastron de médaille, hein, justement. Ils avaient eu tous les signes distinctifs de remerciement de la nation française. Et en tout cas, voilà, je pense que cette histoire-là, elle doit être connue. Tous ceux qui ont participé à notre, à la constitution de notre pays, à nos libertés, à notre, au maintien de notre démocratie, eh bien, doivent être honorés.
Oui, mais évidemment, cela pose des questions dans un contexte de tensions comme celles qu'on connaît aujourd'hui, par exemple avec les manifestations de Black Lives Matter et des manifestations de même type en France, parce qu'effectivement, des descendants disent, eh bien, ils ne sont pas assez honorés ou nous n'avons pas notre place. Et donc, il y a toute cette question qui était évoquée tout à l'heure, à la fois par Olivier Hill et par Bruno Cotterès, de qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour que ces honneurs ne soient pas les seuls rendus et qu'il y ait d'autres politiques qui soient mises en œuvre. Vous devez travailler en interministériel, j'imagine, Geneviève Darrieussecq, avec d'autres ministres pour pouvoir rendre compte de ce que cette question de l'honorabilité de certains des membres de notre nation ne soit pas seule à récompenser d'une certaine façon des actions.
Bien sûr que bon, nous honorons ces combattants pour ce qu'ils ont fait pour la France. Nous devons les faire connaître. C'est pour ça que le président de la République a appelé les maires de France à dénommer des rues, à dénommer des places. En fait, que nos espaces publics soient aussi racontent l'histoire de France, tout simplement, et soient aussi que l'histoire de France soit à portée de main de chaque citoyen qui déambule dans une ville. C'est voilà, c'est une. Mais bien entendu que notre travail avec tous ces pays. Qui étaient des colonies, ben, tout ce travail doit se poursuivre, tout ce travail, bien évidemment, de construction avec eux, enfin, pour les aider à continuer à construire des États forts, indépendants, bien sûr que nous sommes à leur côté.
D'autant qu'effectivement, des soldats français meurent encore en opération dans certains de ces pays, en particulier avec l'opération Barkhane et d'autres opérations de ce type. Bruno Cotterès.
Oui, je trouve extrêmement intéressant ce qui vient d'être dit, parce que j'y vois les traces d'une tendance, me semble-t-il, assez importante. L'hommage se veut aujourd'hui peut-être davantage réparateur. Remettre sur le devant de la scène, mémorielle, les oubliés de la grande histoire. Les populations fragiles, on a une sorte d'imaginaire collectif presque thérapeutique qui se met en œuvre, comme s'il s'agissait à travers l'hommage national
de guérir,
de réparer nos conditions,
on a lu Marc Bloch, on sait combien les rois sont thaumaturges, donc voilà,
il s'agit de ça tout à fait, corriger les traumatismes de la mémoire collective ou des grandes inégalités, des grandes injustices du tissu social, et on voit effectivement cette tendance de l'hommage national gagner du terrain. Il n'est pas étonnant que les chefs d'État, on le disait tout à l'heure, cherchent à davantage ancrer dans les profondeurs et les réalités de la société, dans ces réalités sociologiques, dans ces coins de la mémoire un peu oubliés, qu'ils essaient de davantage ancrer la politique d'hommage mémoriel sur ces questions.
Olivier Hill.
Oui, si les honneurs sont une manière de mettre des conduites en exemple, et peut-être même en modèle, il ne faut pas s'étonner que la nation qui en est le destinataire soit parfois sourcilleuse sur la manière dont les choses se passent. Et on le voit, on est au fond à travers ce débat devant une grande question, immense même, celle des critères au nom desquels ces honneurs sont décernés. Il y a une tendance qui vise à universaliser le mode de récompense, d'autres qui visent, ou une autre qui vise à le particulariser. Et donc au fond, c'est plutôt un universalisme concret hein, qui peut sans doute ouvrir ou frayer la voie à une sorte de position médiane pour éviter que cet universalisme abstrait, au fond, ne récompense que des mêmes catégories sociales ou de genre et que le particularisme débouche sur le séparatisme. Et c'est probablement dans ce moment très spécifique des politiques symboliques ou des politiques d'attribution de décoration que nous nous trouvons avec des chemins divers qui s'offrent à nous. Lequel prendrons-nous ?
Et c'est la ministre qui va nous le dire. Quel chemin va-t-on prendre justement entre cet universalisme et ce particularisme qui vient d'être décrit par Olivier Hill et aussi avec cette dimension réparatrice dont nous parlait à l'instant même Bruno Cotterès.
Oui, c'est vrai. La dimension réparatrice, en tout cas pour la mémoire dont je parlais vis-à-vis, par exemple, des tirailleurs dits sénégalais, parce qu'ils venaient de bien d'autres pays que le Sénégal, et de tous les combattants africains. Bien sûr que nous avons, moi je crois que ça a une dimension réparatrice, parce que c'est une histoire qui n'a pas été sur le devant de la scène dans notre pays, qui n'est pas forcément enseignée de façon...
Elle l'est tout de même.
Elle l'est maintenant, mais pendant de nombreuses années, elle ne l'a pas été. Donc oui, il y a cette dimension réparatrice, et tout simplement, tout cela raconte l'histoire de la France, et tout cela permet de comprendre aussi quelle est la diversité de notre nation. Et c'est une...
Mais vous savez que c'est du combat, la mémoire, vous le savez bien. Et donc, vous savez que effectivement certains groupes veulent pousser telle mémoire, d'autres une mémoire antagoniste, et que donc quand on est au gouvernement, on doit gérer justement cette tension de mémoire qui parfois débouche sur les honneurs, comme on en parle depuis le début de cette émission.
Oui, il y a une diversité des mémoires, mais enfin je crois que nous devons d'abord regarder notre histoire avec notre histoire en face. Moi je crois beaucoup aux historiens, au conseil des historiens, en définitive, qui, au conseil scientifique, qui doivent nous apporter, de la sérénité vis-à-vis de l'histoire. Et la mémoire n'est pas de décliner, chacun pense avoir sa mémoire, mais il y a une mémoire nationale quand même, qui se base sur notre histoire nationale.
Mais qui est toujours en mouvement.
Qui est toujours en mouvement. On le voit, le conflit d'Algérie est quand même le conflit le plus complexe en termes de mémoire à l'heure actuelle. Les choses s'apaisent au fil des années. En tout cas, je crois que parler de tout cela, honorer, faire mémoire, y compris sur des sujets comme ce sujet d'épidémie, qui certainement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, représentera dans notre histoire nationale un moment clé, avec tout ce qui s'en suivra au point de vue social, économique. Je crois qu'il est, il est important, ces temps-là de notre histoire nationale, il est important de les garder en mémoire et d'en faire un ciment national.
Olivier Hill, puis Bruno Cotterès.
Oui, on nous invite à l'instant à élargir le regard. Je pense que c'est tout à fait judicieux, car après tout, les honneurs, on parle de décoration ici, participent des mêmes rayons d'exemple, pour reprendre une vieille formule qui est celle de l'ordonnance de 1816, par laquelle Louis XVIII a installé le monopole de l'État sur ses distinctions. Eh bien, tout cela peut être complété par les statues, les noms de rue, par toute une série d'autres hommages que la nation, à travers son État, rend à des...
Et on sait combien la question des statuts est une question importante ces temps-ci.
C'est le même registre, au fond, et c'est la même politique.
Oui, Geneviève Darrieussecq.
C'est la même politique, et moi, ce que j'ai proposé, en proposant un livret avec des biographies de combattants africains au maire de France pour qu'ils puissent, pour les aider, s'ils le souhaitent, à dénommer des lieux publics au nom de ces combattants, c'est tout simplement, moi je crois qu'il faut construire, ne pas déboulonner, mais construire. Et faire de nos espaces publics un véritable, voilà.
Des parcours de mémoire, c'est
des,
ça ?
Oui, des parcours de mémoire. Je crois que tout cela, à portée de citoyens, qui
dans ces espaces
publics, doit pouvoir trouver toutes les informations concernant la personne qui est nommée sur ce lieu, sur la statue, et en faire, je crois, tout simplement une mémoire collective.
Bruno Cotrès.
Oui, on disait tout à l'heure qu'il y a une forme de tension aujourd'hui sur la question de la mémoire, et c'est bien de ça dont il s'agit, au fond, lorsque la puissance publique remet des médailles, donne des noms de rue. Il s'agit, au fond, de remettre du lien politique et de remettre du contrat social, pour que cette question de l'identité qui est tellement tellement importante aujourd'hui, pour que ça ne devienne pas un enjeu justement d'identité sectorielle, remettre du contrat social, remettre
mais, du mais pour lien. Cela il faut pour ça il faut cette confiance dont on parle depuis le début avec vous, mais
voilà. Et pour cela c'est là aussi où c'est vraiment intéressant, c'est que la puissance publique en honorant, en rendant hommage, elle se remet aussi au centre du jeu mémoriel pour réaffirmer son rôle de garant de l'unité nationale et de la mémoire nationale, pour jouer ce rôle de réparateur après coup des injustices, et donc d'une certaine manière essayer de se réinjecter de la confiance, alors même que les citoyens refusent terriblement cette confiance aujourd'hui aux politiques, au nom de soit son inefficacité, soit son manque de probité, tous les reproches que l'on connaît bien, et que notre enquête au CEVIPOF, le baromètre de la confiance politique, documente toutes les années avec son avalanche de mauvaises nouvelles sur la manière dont les Français voient le personnel politique. Donc on voit qu'il s'agit aussi, pour celui qui remet la médaille, aussi de se remettre au centre du jeu, justement comme celui qui distribue les médailles.
On a l'impression, ou on pourrait avoir l'impression, quand on ne connaît pas votre ministère, Geneviève Darrieussecq, que vous êtes une ministre du passé. Or, ce que vous nous dites, c'est que vous êtes non seulement une ministre du passé, du présent, bien évidemment, mais aussi de l'avenir, de la construction d'une mémoire nationale différente, peut-être. Et cela, c'est assez inédit, d'une certaine façon, de le prendre en conscience, quand on est ministre, de se dire, voilà, je suis en train de faire non pas un travail d'hommage à ce qui est passé et à ceux qui sont morts, par exemple, pour la France, mais d'imaginer quelque chose qui peut reconstruire, refaire, remettre en ordre d'une certaine façon, de manière différente de ce qui a été.
Les messages que je porte régulièrement, c'est que il faut connaître son passé pour construire son avenir. Et que
ça a été rompu à certains moments, ces questions-là. C'est-à-dire que le travail de François Hartog sur le présentisme nous dit justement, c'est à un moment dans notre histoire, eh bien, on n'a plus considéré que c'était une leçon du passé pour pouvoir construire l'avenir. On s'est dit, on vit dans une sorte d'éternel présent, et qu'au bout du compte, il n'y a plus ce rapport nécessaire au passé pour pouvoir imaginer un avenir différent.
Oui, enfin, il y a un facteur commun au passé, au présent, et au futur d'ailleurs, c'est l'être humain. Et si l'on considère un petit peu les situations, je vais élargir, sortir de la France, si l'on considère les personnalités des chefs d'État, si l'on considère les postures, les positions, on se rend bien compte que, dans le passé, il y avait peut-être certaines conditions, certaines postures, mais on retrouve des postures identiques maintenant également. Et je crois vraiment que des postures, tout simplement, d'autoritarisme, de pouvoir absolu, je crois tout simplement que il faut nous rappeler ce que nous avons vécu, il faut nous rappeler certainement que la construction de la France a été longue, a été émaillé de très très nombreuses révoltes, parce que c'est un peuple qui est particulier. Mais en tout cas, moi je crois vraiment que la mémoire est indispensable pour voir l'avenir et construire l'avenir, ne serait-ce d'ailleurs qu'en termes diplomatiques et géopolitiques.
Et on a bien compris que vous seriez peut-être prête à recevoir tout un tas de gens qui voudraient vous porter la mémoire un peu plus loin, un peu différemment, Geneviève Darrieussecq, de ce qui est fait jusqu'alors.
Absolument, et je crois que c'est vraiment le souhait du président de la République et qui est très très attaché à ses politiques.
Merci à vous d'être venu, Madame la Ministre. Merci à vous, Olivier Hill. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie historique à Sciences Po Grenoble et auteur, entre autres, de « Mériter la République », essai sur la société des émules. Et un grand merci à vous, Bruno Cotres, qui travaillait donc au CEVIPOF et en particulier sur ce fameux baromètre de la confiance des Français en la politique. C'était le temps du débat d'été. Sophie Alavi, Nicolas Berling, Pascaline Bonnet, Mathilde Tonfourcade et Audrey Dugast. À la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. À la réalisation, Anne de Pelchin.